France Culture.
C'est un livre à la couverture noire qui établit la position politique et marketing de cet ouvrage qui a fait polémique bien avant sa sortie, des semaines avant sa parution et qui continue de susciter de très vives réactions. Son titre, Face à l'obscurantisme woke, opéré sous la direction d'Emmanuel Hénin, de Xavier Laurent Salvador et de Pierre Vermeeren. Dans cet ouvrage, déprogrammé un temps puis reprogrammé par les presses universitaires de France, la charge est lancée contre ce que ses contributeurs appellent le wokisme, sorte d'idéologie, de morale qui innerverait selon eux tous les pans de notre société et notamment l'université, la culture, les médias, l'élite. Mais le wokisme existe-t-il vraiment? Quelle est sa potentielle réalité aux États-Unis comme en France? Pour en débattre, deux invités ce soir. Pierre Vermeeren, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste du Maghreb et l'un des co-directeurs du livre collectif intitulé donc « Face à l'obscurantisme woke » qui paraît aujourd'hui aux presses universitaires de France. Face à vous, Alain Policard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, chercheur associé au CEVIPOF de Sciences Po. Vous avez publié il y a un an le livre intitulé « Le wokisme n'existe pas » chez l'éditeur Le Bord de l'eau. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans « Question du soir ».
Le mot woke à l'origine, c'est et toujours aujourd'hui, hein, c'est une forme dialectale qui est surtout afro-américaine. Woke renvoie à éveillé. Et ce mot n'a pas de connotation politique à l'origine. En revanche, dès la fin du 19e siècle, c'est-à-dire dans la suite de la nouvelle société qui sort de la guerre de sécession et avec la fin de l'esclavage, on trouve chez des intellectuels noirs l'idée d'un réveil. Mm-hmm. Il y a un article de 1896 par Booker T. Washington qui s'appelle « Le réveil du noir » et qui renvoie à l'idée qu'il faut qu'il y ait un éveil au-delà de la liberté acquise. Peut-être qu'un des plus anciens textes de 1943 où se trouve l'expression « woke » dans une citation et « stay woke », de rester éveillé politiquement pour les Noirs. C'est un article de 1943 qui est écrit d'ailleurs par quelqu'un qui sera le premier professeur noir titulaire dans une université. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur dit que les blancs pauvres doivent aussi s'éveiller et s'éveiller face au système d'oppression capitaliste. Donc, il y a une dimension raciale dans le domaine politique, mais qui n'est pas uniquement liée à une identité noire.
Voilà pour la généalogie de ce terme woke, un terme qu'on va utiliser tout au long de cette discussion. Alors commençons par le début, Pierre Vermeeren, comment est-ce que vous définissez vous-même ce terme-là, woke, wokisme, qu'est-ce que c'est pour vous très concrètement, qu'est-ce que cela représente?
Alors d'abord il faut insister sur la complexité du mot et en même temps le fait que woke tel qu'on l'emploie là c'est un mot valise, donc c'est pas le concept idéal, on est bien d'accord. Mais l'idée générale, si vous voulez, c'est de dire que il y a une provenance religieuse, hein. Je ne sais pas si ça a été dit, moi ça me fait penser un peu aux Quakers américains. On est en éveil, on tremble devant quelque chose, devant les inégalités. Et en fait, il s'agit de regarder, avec comme grille de lecture principale, voire unique, le monde selon la grille dominant-dominé. D'accord. Et donc, du coup, pour ceux qui sont les contempteurs de ceux qui considèrent qu'ils subissent une domination, ils doivent l'incriminer comme, évidemment, étant une position de force, un abus de pouvoir des dominants, qu'ils soient hommes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient riches, qu'ils soient de toute nature. Et ils doivent dénoncer, au nom de la morale, cette position. Le problème, c'est que c'est très bien, la morale n'est pas interdite, mais c'est quand elle prend pied dans la science et que, comme grille de lecture de l'analyse scientifique, on doit avoir une grille de lecture morale. Et c'est là qu'il y a une perversion du système. Moi, si les woke veulent être woke, ça ne me gêne pas. Mais si ça devient une idéologie officielle, une idéologie d'État, une idéologie portée aujourd'hui par des grandes institutions comme l'Union européenne, et qu'on l'impose dans le domaine de la recherche, par exemple, c'est-à-dire que par l'utilisation des axiomes et par l'utilisation d'un certain nombre de concepts, on va considérer que tout projet de recherche qui échappe à cette grille de lecture n'a pas voix au chapitre, ne sera pas financé. Et du coup, ça a des implications très fortes. Alors, bien sûr, le wokisme, on peut l'utiliser dans la politique, on peut l'utiliser dans l'idéologie, on peut l'utiliser à l'université. Nous, on parle de science dans ce livre, que ce soit clair, on parle de l'université. Et l'idée qui a été à l'origine de ce livre... Pardon ?
Vous parlez également des médias, vous parlez de bien d'autres sphères, de bien d'autres domaines.
Effectivement, on parle des institutions, mais le cœur de la deuxième partie, c'est de montrer que cette idéologie qui, a priori, est très portée par les sciences humaines et sciences sociales, en réalité, aujourd'hui, elle a débordé dans le domaine des sciences dures, la psychologie, la biologie, la médecine. Et donc là, on passe dans autre chose, parce que du coup, cette fois-ci, il y a des victimes du système.
On va revenir, vous avez dit énormément de choses, on va revenir pas à pas sur votre raisonnement, mais d'abord votre définition, Alain Policard, de ce qu'est le wokisme, si tant est qu'il existe, selon vous.
Oui, précisément, pour moi, il n'existe pas, c'est tout le sujet.
Plus compliqué d'en donner une définition, ouais, alors.
Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas les mêmes lunettes que mon interlocuteur, puisque moi, je ne vois pas l'Union Européenne une idéologie officielle wokiste, je ne sais pas où on la trouve. L'idée que des projets scientifiques ne seraient pas financés s'ils n'étaient pas dans cette grille dominant-dominée, cette grille donc que M. Vermeulen conteste, je n'en vois aucune trace, si vous voulez. C'est le problème, c'est qu'il n'y a pas d'éléments quantitatifs. Il y a uniquement un soupçon qui est porté, mais moi qui ai fréquenté assez longtemps l'université, qui continue en étant chercheur associé à la fréquenter, je ne vois pas de recherche qui soit empêchée. Bon, quant à dire que la grille dominant-dominée n'est pas la seule grille d'explication du monde, j'en serais d'accord, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas la seule grille d'explication que la domination n'existe pas, et que par rapport à cette domination, il ne faille pas effectivement rester éveillé. Alors moi, je ne définis pas le wokisme, je définis en revanche la wokeness, c'est-à-dire l'éveil, comme Laurent Dubreuil l'a très bien défini. Je n'y vois pas de provenance religieuse. Ce que Laurent Dubreuil n'a pas dit, mais il ne pouvait pas tout dire en si peu de temps, c'est que, effectivement, c'est l'éveil également aux inégalités sexuelles. Ce n'est pas simplement les éléments qu'il a mis en avant.
Je voudrais citer les toutes premières lignes de cet ouvrage qui paraît donc aujourd'hui face à l'obscurantisme woke. C'est une introduction signée Emmanuel Hénin et elle écrit... En 1945, George Orwell déclarait à propos d'une rumeur absurde « Il faut être un intellectuel pour croire une chose pareille, une personne ordinaire ne pourrait jamais être si folle. » Fin de citation. Que dirait le héros de la décence commune en découvrant le paysage universitaire occidental des années 2020 ? La folie qui s'est emparée du continent nord-américain où des postes d'enseignants-chercheurs sont désormais réservés aux individus qualifiés qui s'auto-identifient comme femmes, transgenres, genre fluide, non-binaires, bispirituels et ne cessent d'étendre ses ravages en Europe, inaugurant un nouvel âge de la bêtise. Fin de citation. Est-ce que c'était pas le pire moment pour faire paraître une telle publication quand on regarde, quand on constate même ce qui se passe effectivement aujourd'hui aux États-Unis et les injonctions du pouvoir trumpiste à l'égard des universités américaines? Est-ce que c'est pas exactement l'inverse de ce qui est décrit ici?
Alors, d'abord, à travers l'extrait que vous venez de lire, vous avez la preuve que cette idéologie existe, au moins aux États-Unis. Peut-être pas chez nous, mais aux États-Unis.
J'ai pas vu la preuve, pardonnez-moi.
Ah, vous n'avez pas vu la preuve à travers les termes que vous avez employés pour recruter des fonctionnaires dans un État républicain et démocratique.
Là, en l'occurrence, si on constate la politique de Donald Trump, c'est exactement l'inverse. Ces mots-là sont empêchés pour produire un raisonnement scientifique et des recherches.
Alors d'abord, je ne suis pas américain. Je n'habite pas aux États-Unis et ce projet collectif a été lancé il y a 3 ans. Mmh. D'accord ? Il y a une temporalité du travail universitaire qui est lente. Voilà, l'édition universitaire est lente. Ce travail, ça fait 3 ans et demi qu'on l'a lancé. Le livre est sur la table aujourd'hui. Trump était donné battant, jusqu'à son élection. Si vous voulez faire le procès a posteriori que le livre a été construit finalement pour accompagner le combat politique de Trump, c'est absurde.
C'est pas ce que j'ai dit.
Je sais.
Ce que je veux dire en revanche, c'est que c'est peut-être...
Vous n'êtes pas le seul à l'avoir dit, je vous rassure.
Non, mais alors si je précise ma question, pardonnez-moi, est-ce que ce n'est pas la réalité de ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Est-ce que ce n'est pas une preuve, en l'occurrence, de l'inverse de ce que vous décrivez?
Non, moi je pense que le trumpisme, finalement, c'est le produit du wokisme américain. Il a été tellement puissant, il a tellement déstabilisé les classes moyennes, l'homme ordinaire dont vous parliez. Il ne comprend rien à ces histoires. Alors on peut dire, il a tort, il a... etc. Mais il y a des conséquences politiques. Et des conséquences politiques en France peuvent très bien être les mêmes. Parce que si vous décrochez les préoccupations de l'homme moyen, et moi je parle de mes étudiants, l'homme et la jeune fille moyenne, moi j'ai des étudiants normaux, ils sortent du lycée, ils ont une très grande difficulté à écrire. La moitié d'entre eux sont éliminés par les universités françaises dans les 2 premières années. Et si vous voulez leur présenter maintenant l'idéologie de l'écriture inclusive comme quelque chose qui va les aider alors qu'ils n'arrivent pas à écrire, moi je pense qu'il faudrait investir dans la formation, dans une meilleure formation. Si après les gens sont arrivés à un haut niveau d'études et qu'ils ont un certain degré d'abstraction et qu'ils sont capables d'intégrer des exigences telles que celles-ci, eh bien c'est très bien. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que cette situation faite aux étudiants des classes populaires, alors bien sûr à Sciences Po ou à Normal Sup, là où les étudiants sont triés d'une manière drastique. Moi, j'ai fait partie des comités j'ai corrigé des copies de Sciences Po pendant 10 ans, on nous demandait d'en garder 1 sur 10. Alors maintenant, ils sont plus sélectionnés à l'entrée, ils sont sélectionnés selon d'autres critères, mais d'un côté, vous avez l'université de masse, et nous, on est tous des universitaires de l'université de masse, ou presque tous, et on travaille pour ces jeunes gens. Ces jeunes gens sont très fragiles, ils sont déstabilisés, on leur explique qu'aujourd'hui, il faut pas passer les concours, que les disciplines, tout ça, c'est fini, qu'ils vont adhérer à des studies, que ces studies vont leur former leur avenir. On va former des spécialistes du genre ou de la race. Bon, je précise qu'entre parenthèses, on m'a élevé toute ma formation dans l'idée que la race avait été définitivement discréditée par Hitler. Je vois qu'elle revient par la fenêtre parce qu'on se prend pour des Américains. Très bien, acceptons-le. Mais si vous voulez, voilà, la position de l'homme ordinaire, elle a une certaine cohérence et elle aboutit à le fait qu'aujourd'hui, on a 2 millions d'étudiants en France. Il faut s'en occuper dans les meilleures conditions. C'est loin d'être le cas.
Sur le mot de race, il ne revient pas dans le champ universitaire et dans le débat public avec la même approche que Gobineau ou Adolf Hitler. Et bien heureusement, il faut quand même marquer cette distinction d'une façon franche. C'est vous que je cite désormais, Alain Policard, dans le journal Le Monde. Cette fois, vous écrivez avec d'autres ceux des anti-woke qui se targuent à bon droit d'avoir toujours combattu le poutinisme ou le trumpisme, occultent à trop bon compte ce qu'a été de manière massive le véritable sens politique de l'anti-wokisme, la construction d'une panique illibérale par une pratique de l'amalgame généralisé. Fin de citation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
L'amalgame, c'est effectivement la réduction de certaines catégories à d'autres. Par exemple, le danger islamiste qui est souvent évoqué par les anti-wokistes s'étend à l'ensemble des musulmans, porte le soupçon sur l'ensemble des musulmans. La question de la laïcité, qui est aussi au centre des débats, est le meilleur exemple, me semble-t-il, de cette réduction dans la mesure où la laïcité devient en quelque sorte la métonymie de la République et que chaque fois qu'il y a un attentat islamiste, un attentat hélas, on en a connu beaucoup, mais depuis 2015, on ne parle que de laïcité. De 82 à 2012, on n'en parlait absolument pas. 82, attentat de la rue des Rosiers. 2012, attentat de Mohamed Merah. On ne parlait pas de laïcité. Donc maintenant, si vous voulez, il y a des mantras qu'on agite. Moi, dans ce qu'a dit M. Vermeulen, je ne vois pas du tout l'ombre d'une définition. Je ne sais absolument pas toujours ce que pourrait être le wokisme, à part le fait de désigner par cela tout ce que l'on n'aime pas. Et il me semble qu'on fait fi des injustices, des inégalités, des discriminations. Quant à la question de la race, vous y avez répondu avant moi, mais effectivement, la race est un domaine d'études comme le genre, comme la classe. Il n'est pas nécessaire d'être raciste. Je dirais même que ce ne sont pas les racistes qui s'intéressent à ce type d'études. Hein, encore une fois, il y a les races qui suppose une hiérarchie qui, là, rentre dans une logique raciste, et puis la race comme domaine d'étude qui est parfaitement légitime.
Pierre Vermeulen, lorsque vous évoquez le wokisme comme idéologie, même comme morale, est-ce que c'est une morale, dans le fond, que de vouloir lutter contre les inégalités ? J'ai du mal à saisir le reproche même qui peut être formulé à cela.
C'est pas une morale, puisque notre République a été construite pour cela. D'accord.
Et c'est pour ça. C'est vous qui disiez que c'était une morale, le wokisme.
Non, mais attendez, vous dites la lutte contre les inégalités. La lutte contre les inégalités, c'est effectivement l'objectif de cette République. Je note entre parenthèses qu'elle n'y parvient pas très bien, notamment dans le domaine de l'éducation. Mais passons. La question de la morale, c'est, si vous voulez, la science, c'est un combat finalement, c'est une recherche de la vérité. C'est pas une recherche du bien, c'est pas un jugement. La recherche historique, c'est un processus difficile, long, comme d'ailleurs la recherche dans toutes les disciplines. Il y a des preuves, il y a des sources, il y a une critique des sources, et on aboutit à un résultat, d'écrire l'histoire de telle ou telle période, c'est souvent pas très flamboyant. Mais projeté sur les périodes précédentes, projeté sur les phénomènes sociaux ou politiques, une grille de lecture, le bien, le mal, occulter tout ce qui est mal, et promouvoir ce qui est bien au nom, non pas d'une, de la science, de résultats scientifiques, mais d'une idéologie. Il n'y a pas de corpus dans le wokisme. Je veux bien vous entendre quand vous dites que le wokisme n'existe pas. Effectivement, le marxisme avait un corpus idéologique. Il fallait lire Lénine, il fallait lire Trotsky, il fallait être un intellectuel pour pouvoir porter cette idéologie. Pour porter le wokisme, dans un contexte général d'effondrement intellectuel et surtout d'effondrement culturel, que je suis le premier à déplorer qu'on trouve chez nos étudiants, enfin, vous pouvez regarder d'une part le classement de PISA, c'est pas moi qui l'ai inventé, la moitié des étudiants qui sont évacués des premiers cycles universitaires en France et le très faible niveau. Moi, j'ai plus d'étudiants à présenter au CAPES, vous voyez. Il y a plus personne ne veut le passer. Donc, ce résultat, et en plus, certains...
Mais ça, c'est la faute du wokisme?
Non, bien sûr que non.
Non, mais je pourrais rétablir les choses.
C'est les inégalités, d'accord? Donc, elles existent, mais... C'est projeter sur ces réalités sociales une grille en disant c'est la faute. Bah, pourquoi on a des mauvais résultats scolaires? Parce que la France est coloniale. Mais c'est grotesque. Pourquoi est-ce que y aurait telle ou telle catégorie de la population qui échapperait à la science ou qui n'aurait pas de bons résultats? Parce que la société est raciste ou parce que la société est genrée ou parce que... Non, ça ce sont des axiomes. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans tous ces secteurs, personne ne les nie, mais dans le domaine de la science, on lui donne le lot très large pour lui faire imputer des problèmes qui viennent d'ailleurs. En revanche, nous on est des artisans, on travaille de manière laborieuse. On a écrit ce livre de manière, non pas laborieuse, mais au sens du labeur, du travail, avec de la sueur, avec de la réflexion. Et dire que tout ça, ça n'existe pas, c'est jeté à la poubelle, c'est quand même un peu raide, surtout quand le discours idéologique prévaut partout, et que au fond, je reviens, parce que vous n'avez pas l'air d'avoir compris ce que j'ai dit, vous dites que c'est pas clair. Les mots qui sont aujourd'hui, pour porter un projet de recherche devant l'Union européenne, ou devant les collectivités locales françaises, si vous n'avez pas 10 mots-clés, qui viennent d'ailleurs du monde anglo-saxon intégralement, qu'on a repris, qu'on a traduit en français ou pas, eh bien, vous ne pouvez pas faire de recherche. Donc, moi, un étudiant qui voudrait travailler aujourd'hui sur la Libye, qui voudrait comprendre Kadhafi, qui voudrait comprendre la guerre civile, qui voudrait comprendre le génocide des 8 millions de morts au Congo, personne ne va lui donner une bourse, parce que il faudrait accepter que dans le monde arabe, ce ne sont pas les femmes qui dirigent la politique. Ben, malheureusement, c'est pas de mon fait, vous voyez.
On va revenir justement sur l'État. Une réaction d'abord Alain Policard, et peut-être d'abord sur cette saillie formulée par Pierre Vermeer. L'idéologie woke n'aurait pas de corpus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Il n'y aurait pas, oui. J'allais dire, de racines intellectuelles à ce mouvement? C'est alors, surprenant, ça.
La wokeness a des racines intellectuelles, mais l'idéologie
lesquelles,
woke, telle qu'elle est présentée effectivement par les auteurs du livre, je veux dire entre parenthèses que personne n'a dit que l'anti-wokisme n'existait pas. Donc votre livre, il existe bien. Il correspond à une occurrence effectivement très vive de ce que représentent les manifestations de, disons, d'intolérance généralisée dans le domaine des études universitaires. Puisque, encore une fois, beaucoup d'entre nous ont les mêmes valeurs, si vous voulez, que celles qui sont réclamées par les auteurs du livre, à savoir la recherche de la vérité, comme la quête de la vérité, c'est l'idéal de l'enquête, si vous voulez, mais ça ne veut pas dire que la science se fabrique indépendamment du contexte socio-économique. Donc, il y a des sujets de recherche, ça a toujours été le cas, qui sont valorisés par les pouvoirs publics, avec ce qu'on appelle l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui valorise un certain nombre de domaines de recherche. C'est quelque chose de parfaitement connu, et on peut le regretter d'ailleurs. Quant à la crise du système scolaire, elle est évidente, mais elle ne date absolument pas des années où le wokisme aurait supposé envahir les...
Absolument. Ah,
c'est au moins depuis 83 que la dégradation de la condition du professeur s'est opérée. Et quand M. Vermeeren dit qu'il ne peut pas recruter au CAPES, c'est simplement parce que les profs sont très mal payés et que les conditions de travail sont très mauvaises. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le wokisme, d'ailleurs, vous l'avez reconnu.
Pierre Vermeeren, vous avez souhaité réagir. En quelques mots, oui. Je voudrais qu'on aborde d'autres sujets.
Non, parce qu'on n'a pas parlé de la régression communautaire que ça représente, si vous voulez, par rapport à l'idéal de l'universalisme venu des Lumières, et l'idéal de l'universalisme dans le domaine de la science. Et de la démocratie d'ailleurs. Si on renvoie chacun à sa communauté, ethnique, raciale, sexuelle, religieuse, etc. Parce que c'est vous qui avez parlé de l'islamisme. L'islamisme, effectivement, il n'est pas créé, bien sûr, par le wokisme. Il fait son miel de cette situation. Parce que si chacun est renvoyé à sa communauté, eux, ils ont un programme qui est tout prêt. C'est pour ça qu'il y a un lien. Bien sûr, ils ne sont pas... Je vous rassure, je travaille dans le monde arabe, il n'y a pas de wokistes, hein. Il n'y en a nulle part. D'ailleurs, mes collègues africanistes, eux, ils sont beaucoup plus en prise à cette idéologie. Nous, sur le monde arabe, on n'est pas concernés. Les seuls qui font du wokisme, ce sont les laboratoires français de recherche dans cette région. Mais voilà, donc attention à la guerre de tous contre tous, parce que cette idéologie, c'est ça qu'elle produit aussi.
Alors, je voudrais qu'on tente de mesurer les choses, hein. Il y a quelques semaines, une équipe dirigée par le sociologue Étienne Ollion, qui est enseignant à l'École Polytechnique, a mené une enquête justement sur la place des questions du genre dans l'université française, et voilà les résultats qui l'établissent. L'échantillon de ces revues est large, hein. Il a étudié 120 publications françaises en sciences sociales, plus de 50 000 résumés d'articles. Résultat, en un peu plus de deux décennies, la proportion d'articles qui mobilisent l'approche de genre est passée de 9% à 11,4%. On est quand même loin, très très loin, Pierre Vermeeren, de la submersion que vous semblez décrire.
Ça dépend des disciplines, ça dépend des établissements.
Alors, je peux vous dire, j'ai le détail selon les disciplines. La discipline qui est le plus concernée par les études de genre, par ailleurs ce n'est pas un mal que de faire des études de genre non plus, mais passons, c'est 14% pour la sociologie. On est encore là, très très loin, d'une submersion.
Alors écoutez, je vous renvoie, bon, je n'ai pas lu cette étude, donc je vous en fais crédit. Je vous renvoie aux travaux menés par notre observatoire de l'éthique universitaire, qui a fait depuis plusieurs années des rapports annuels, que vous pouvez trouver sur notre site, et vous verrez des centaines. Alors peut-être que s'il y a des centaines de milliers de colloques, effectivement, ça ne représente pas grand-chose, mais vous trouverez des centaines de sujets de thèse, des centaines de sujets de colloques, des centaines d'appels à projets divers, dans lesquels les fameux mots-clés dont je vous ai parlé sont à la base du projet. Voilà. Alors c'est vrai que certaines disciplines sont beaucoup plus touchées que d'autres. La sociologie...
Aucune n'est massivement touchée.
Mais j'aimerais... encore moins les sciences dures.
J'aimerais en être sûr, mais bon, vous avez de la chance. Moi, c'est vrai qu'en histoire, on est relativement peu touché parce que nous, on travaille, c'est très difficile de faire de l'idéologie à partir des documents historiques. Mais en revanche, sur les sujets qui sont distribués ou qui sont interdits ou autorisés, là, vous avez effectivement, notamment sur les... Vous savez, le problème est très important dans le financement de la thèse, parce qu'aujourd'hui, les étudiants sont pauvres, ils ne peuvent pas faire leurs recherches, ils ne sont pas financés, pour la plupart d'entre eux. Et donc, la clé du financement, elle est là. L'État français s'est désengagé pour une très grande partie du financement des projets de thèse, et il l'a confié à l'Europe. Et c'est à Bruxelles que cette idéologie est très puissante. Voilà. Alors, après, il y a des... Je ne dis pas que le wokisme a renversé tout, mais je vous assure, et puis, il faut voir les sujets de genre. S'intéresser... Je vous renvoie, par exemple, à l'étude de Godounou, qui est dans notre livre, sur la question du genre à l'université. Qu'est-ce que c'est que le sujet de genre? C'est s'intéresser aux hommes et aux femmes. Bien sûr, l'histoire des femmes, elle existe depuis une quarantaine d'années, personne ne la conteste, elle existait déjà. Mais la question du genrisme, de l'idéologie woke concernant le genre, ça n'est pas ça. C'est pas ça. C'est appliquer une grille de lecture radicale, combattante, militante, idéologue à cette question. C'est pas faire l'histoire des femmes, ça c'est autre chose.
Disqualifier Alain, tous les chercheurs.
Alain Policar, une réaction justement sur votre sentiment de ce qu'il se passe à l'université, dans l'université, au sujet des études de genre, mais au-delà d'ailleurs de ces approches.
Je connais beaucoup de spécialistes d'études de genre, et on ne peut pas exclure que certains d'entre elles, ou d'entre eux, aient tendance à nier la dimension biologique de l'existence humaine. Ça peut exister, mais ce n'est vraiment pas la majorité des cas. La plupart des études de genre s'intéressent à la discrimination que le genre, précisément, met en évidence. Je crois qu'il y a un mot qui vient à l'esprit immédiatement ici, c'est le mot d'intersectionnalité, puisque ce mot-là est une des têtes de turc des anti-wokistes. L'intersectionnalité, c'est la mise en évidence de discriminations croisées, fondées sur le genre, fondées sur la race, et éventuellement d'ailleurs fondées sur la classe sociale. C'est-à-dire qu'on la caricature. Je vous rappelle qu'en 89, lorsque cette notion a été évoquée par Kimberlé Crenshaw, c'était uniquement la constatation d'une lacune juridique dans le droit américain. Maintenant que certains brandissent l'intersectionnalité comme un slogan, nul ne peut le nier, cela arrive, ça n'est certainement pas la majorité des cas. Et puis, bien entendu, dans des domaines nouveaux, les studies dont parlait M. Vermeeren, il peut y avoir effectivement des excès militants, des dérives. Mais je crois encore que les dérives militantes, ça n'est pas une caractéristique de notre époque. On en a connu depuis toujours. Il y a certainement toujours une tentation, parfois, d'ostraciser ceux qui ne pensent pas comme vous. Mais je pense que les ostraciser vous l'avez dit vous-même, ce sont ceux qui sont victimes aujourd'hui du trumpisme ou en Inde, de Modi et de beaucoup d'autres pays dans lesquels l'État a les moyens de sa politique. Parce que la culture à l'émulation, ça suppose que l'État ait les moyens de sa politique. Or, je ne crois pas que les wokistes, si supposés qu'ils existent, aient les moyens d'imposer quelque censure que ce soit.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'une historienne spécialiste des États-Unis, Emmanuelle Pérez-Tisserand. Elle s'exprime au sujet du mouvement Stand Up for Science.
C'est aussi important, je pense, à l'échelle mondiale aujourd'hui, de rappeler que ce que font les scientifiques, c'est-à-dire l'avancement de la connaissance et d'être payé pour ça, ça bénéficie à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des débats, réfléchir à où va la science ensemble. Debout pour les sciences, et surtout les sciences sont un bien commun. Donc c'est pas corporatiste, c'est pas sauver les chercheurs en tant que tels, mais c'est pour le bien collectif. Mais c'est vraiment important de garder cette indépendance, cette autonomie. Tout ça prend d'abord énormément de temps et d'énergie, et normalement l'État est censé garantir cet accès-là par cette recherche publique. Et donc, il a fallu trouver des solutions, et notamment pour un centre très important de contrôle et de surveillance des épidémies, le CDC. Il y a un archivage qui a été fait, qui est hébergé actuellement en Europe par des personnes qui ont dû, en précipitation, se mobiliser pour sauver ces données qui sont non seulement utiles à la science états-unienne, mais aussi à la science mondiale. Et les attaques qu'on voit aux États-Unis, mais qu'on peut voir ailleurs dans le monde, ça nous paraît très dangereux. Et voilà, on veut faire un sursaut, mobiliser et rappeler pourquoi c'est important que les sciences soient un bien commun.
Quand on regarde l'état des choses, Pierre Vermeyren, quand on regarde l'état actuel de la science, de la recherche, de l'université, l'état, j'allais dire même moral de nos chercheuses et des chercheurs qui composent ce pays, est-ce que le vrai problème de l'université, c'est fondamentalement le wokisme? Je pense notamment au manque de considération, aux menaces sur la liberté académique, à la question des statuts, du nombre de postes, à la question plus générale des moyens. Est-ce que quand on hiérarchise les choses, selon vous, le wokisme est en tête de gondole?
Alors, il y a plusieurs choses. Si vous me parlez des moyens, effectivement, moi, je suis dans un laboratoire. Il y a 50 chercheurs. Notre budget de fonctionnement annuel, c'est 38 000 euros. Bon, donc, voilà, vous voyez ce que ça donne. Je ne vous fais pas un dessin sur, effectivement, la carence des crédits accordés à la recherche. Et c'est d'autant plus grave que, dans ce contexte de pénurie, qui s'est encore aggravé cette année, justement quand on voit que certains fonds sont dilapidés. Parce que, encore une fois, les crédits européens dont on parlait tout à l'heure, eux, ils sont pas distribués par dizaines de milliers d'euros, ils sont distribués par millions d'euros. Il y a eu des programmes de recherche, notamment sur les frères musulmans, il y a quelques années, pour prendre cet exemple, qui ont coûté des millions d'euros et qui, évidemment, n'ont pas trouvé leur altérité. C'est-à-dire que, là encore, pour des raisons communautaires, il fallait financer telle ou telle recherche. Alors, le problème qui est évoqué sur les moyens, il est évident. Moins il y a de moyens, plus il faut peut-être les répartir avec beaucoup de sagesse. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des victimes. C'est-à-dire que dans le domaine de la science, encore une fois, puisqu'il faut parler toujours des États-Unis, il faut se demander pourquoi Trump a été élu. Non, moi je n'en parle pas.
C'est les premières lignes de l'ouvrage.
Oui, mais enfin, c'est pas un livre sur les États-Unis. Pourquoi Trump a été élu? Parce que le monde culturel américain, les grandes entreprises, parce que quand on dit l'idéologie, tout à l'heure je disais c'est une idéologie d'État, c'est une idéologie des grandes institutions, c'est une idéologie du capitalisme, des grandes sociétés américaines. Alors on les voit aujourd'hui changer leur cap parce qu'en fait elles n'ont pas d'idéologie, elles font ce que le marché les commande de faire. Elles soutenaient le wokisme, tout d'un coup Trump est élu, elles font machine arrière. C'est une idéologie des puissants. Voilà. Et ça fait des victimes. Dans le domaine de la santé, si vous voulez, si on veut parler du genre, vous n'êtes pas sans savoir la question des victimes que sont ces adolescents que l'on mutile très jeunes pour des raisons a priori idéologiques, mais en fait qui sont des raisons économiques. Une transition de genre aux États-Unis, ça coûte 150 000 euros, qui sont récupérés par les grandes sociétés américaines. Et la mode et le développement de l'idéologie du genre a été au service de ces intérêts.
Je vous laisse responsable de ces propos parce que oui, c'est très 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 contesté et très 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 contestable également.
Que ça coûte 150 000 euros.
Non, mais sur les mutilations que vous évoquez, sur ce que ça produit justement ces enfants.
Je vous renvoie notamment à la contribution d'un de nos auteurs qui parle de cette question, qui est très connu, mais je sais que c'est très polémique. Je ne dis ce qu'on vient pas, mais c'est pour dire, si vous voulez, qu'on n'est pas toujours seulement dans le monde des idées. On est dans le monde des gros sous et on est aussi dans le monde des victimes.
Vous parlez de Céline Masson. Je vais absolument faire réagir Alain Policard. Est-ce que pour vous, il vous semble tout de même que cette idéologie qui n'existe pas selon vous appartient à l'élite, aux dominants, pour reprendre une expression chère à Pierre Vermeyren?
Non, bien sûr que non. Bien évidemment, c'est chez les intellectuels qu'on trouve le plus souvent, l'histoire du mouvement socialiste le prouve, la sensibilité aux inégalités, aux injustices, bien évidemment. Mais je ne la vois nulle part. Moi, je trouve que les chiffres que vous avez cités de Haut-Lyon sont extrêmement parlants, et je pense que l'exagération et le mode de raisonnement des anti-wokistes sur les transgenres, on n'a aucun élément qui prouve l'existence d'une épidémie. Bien entendu, ce
lisez le livre de Madame Masson.
Mais non, mais je la connais très bien, Céline Masson.
Bah, lisez son texte.
Oui. Non, mais encore une fois, moi, je voudrais dire une chose qui est extrêmement importante, me semble-t-il, qui n'a pas été dite. Moi, je ne suis pas pour que l'on limite les recherches dans quelque domaine que ce soit. Je suis évidemment partisan de la liberté d'expression, de la liberté de programmation, de la liberté de création. Donc, encore une fois, si Céline Masson ou qui que ce soit est empêché d'exprimer ce qu'elle a exprimé, je suis totalement en désaccord. C'est ça la démocratie, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier non plus, vous avez cité, je n'aurais pas fait cette remarque si vous ne l'aviez pas cité vous-même, l'Observatoire d'éthique universitaire, on sait qu'il est financé depuis 2022 par Sterrin, on sait qu'il est un milliardaire qui cherche à permettre l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, si bien que ce que l'on peut dire ici, si vous voulez, c'est que on joue à se faire peur sur les wokistes et on oublie ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le péril de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. On l'a d'ailleurs connu avec Trump précisément, mais pour la France même, et également la crise climatique dont personne ne parle parce que le wokisme serait supposé le mal absolu. Moi, je fréquente beaucoup de scientifiques durs, puisque mon épouse est professeure de chimie à l'École normale supérieure, et je ne vois pas de wokisme à l'École normale supérieure dans les sciences dures, et franchement, je n'en vois pas dans d'autres disciplines non plus.
Je voudrais vous faire réagir sur un point précis, hein, Pierre Vermeeren, le fait que effectivement le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin finance l'observatoire de l'éthique universitaire auquel vous appartenez, mais auquel j'ai compté 18 des contributeurs de l'ouvrage, 18 sur 26 contribuent ou ont contribué à cet observatoire. Comment vous réagissez à cela ?
Alors vous avez raison d'en parler puisque ça a été à l'origine de la tentative de censure qui a eu lieu il y a 2 mois. Hein. Elle a été faite sur 2 bases. Elle a été faite premièrement sur cette base de l'affaire dite Sterrin, et elle a été faite sur la base de l'élection de Trump, qui pour le coup est relativement...
On en a parlé.
Voilà. Alors, oui, on a créé en 2021 cet observatoire, qui s'appelait l'Observatoire du décolonialisme. C'est une association loi 1901, dans laquelle les donateurs n'ont aucune influence sur celui qui... sur ceux qui agissent et qui procèdent. Hein. On a même un rescrit fiscal pour en attester. On a des centaines de donateurs. Parmi l'un d'eux, effectivement, il y a cette association qui s'appelait à l'époque la Fondation du Bien Commun qui est venue nous voir et nous a dit qu'elle nous proposait de soutenir notre cause puisque le ministère de l'Enseignement supérieur de M. Blanquer avait cessé de nous aider. Il nous a aidé au lancement et puis ça lui a... Enfin bon, je ne sais pas ce que ça a entraîné, mais toujours est-il qu'il s'est désengagé. Et nous, on avait effectivement besoin d'argent pour faire tourner notre secrétariat.
C'est le programme, c'est le programme Périclès, aujourd'hui.
Ça a été récupéré après. Mais d'ailleurs, le financement est terminé, comme je l'ai dit, et c'est pour ça qu'on ne va pas cracher sur ce qui nous a été offert. Simplement, nous, on s'est servi de cet argent pour avancer. Ce livre n'a strictement rien à voir avec ça. Il a été fait de manière gratuite. Personne n'a été financé par cela. D'ailleurs, l'université fonctionne uniquement sur le mode de la gratuité. Et donc, l'éditeur n'a pas reçu aucun argent. C'est même lui qui est venu nous chercher il y a 3 ans au PUF. Ils sont venus nous chercher pour faire ce livre. Si vous voulez, donc, on peut toujours...
Je vous coupe juste sur un point. Il y a quand même une imbrication objective entre les contributeurs de l'ouvrage et celles et ceux qui font vivre cet observatoire, et ne serait-ce que aussi les thématiques. Les thématiques sont absolument similaires entre cet observatoire et ce que l'on trouve dans l'ouvrage. Il y a une concordance de points de vue et de participants.
Je ne dis pas le contraire. On en est à notre...
Donc on peut se demander si c'est une émanation de l'observatoire.
Oui, mais c'est une émanation de l'observatoire, notamment, bien sûr, ouvert à d'autres... intellectuels, comme vous l'avez dit, c'est notre deuxième livre. Bien sûr qu'on s'intéresse à cette thématique. Si vous voulez, je ne dis pas que cette thématique est mondiale et renversée, et c'est la priorité absolue. Moi, j'aimerais mieux qu'il y ait des gens en France, vous voyez, qui travaillent à l'université sur les 8 millions de morts du Rwanda, sur la guerre civile en Libye, et sur un certain nombre de choses, au Sahel aussi, hein, sur la salafisation de l'Afrique et du Sahel, et le massacre de milliers de chrétiens chaque année au Sahel. Tous ces sujets, personne ne travaille dessus. C'est pour ça que le détournement des moyens de la recherche recherche. On peut dire que tout ça est anecdotique, mais ça laisse des pans entiers de ce qui devrait être notre conscience collective morale dans l'ombre, et c'est tout à fait fâcheux.
Je voudrais vous faire entendre une voix, ou plutôt un reportage à propos de ce qui s'est passé à l'université Lyon 2 et de la censure d'un cours de géographie.
Une quinzaine d'individus masqués sont arrivés avec une pancarte « Libérer la Palestine ». Ils m'ont encerclé et puis le meneur a commencé à m'invectiver en me traitant de génocidaire, de sioniste. À ce moment-là, j'ai rangé mes affaires et j'ai quitté l'amphithéâtre.
Je comprends totalement la façon dont les élèves ont pu voir ça d'une façon très hostile. Je pense que parfois, il faut que la fac se mette en accord avec ses étudiants. Moi, je pense qu'il n'y avait aucun problème à ce que les étudiants fassent la rupture du jeûne. Et donc, bon, qu'un prof parle dessus, non.
Moi, personnellement, comme je suis musulman, ça me touche directement. Donc, je peux comprendre leur colère, mais je pense quand même qu'il y a des façons de faire. Je pense qu'il y a un cadre à respecter.
Une affaire de censure qui a fait énormément de bruit ces derniers jours et qui s'est passée à l'université Lyon 2. Je rappelle par ailleurs que la présidente d'université qui a tenté de calmer le jeu est aujourd'hui menacée de mort. Alain Policar, comment vous réagissez à cela ?
Est-ce que c'est... professeur aussi.
Et le professeur aussi a peuplé deux, mais comme c'était déjà mentionné dans le reportage, je parle cette fois-ci de la présidente. Alain Policar, comment vous réagissez à cela ? Est-ce que c'est le wokisme qui sévit en matière de censure dans ce cas-là ?
Alors, on peut difficilement considérer que la présidente de l'université Lyon 2 a manifesté du wokisme en protestant contre les attaques que M. Balanche a menées dans les médias à propos d'une université qui serait gangrénée par l'islamisme. Moi, je suis tout à fait opposé à ce que l'on empêche un enseignement de se tenir. Je l'ai dit clairement tout à l'heure. Je comprends qu'on puisse le contester, je comprends qu'on puisse le contester vivement, mais empêcher un enseignement de se tenir, ce n'est pas dans ma philosophie, incontestablement. Maintenant, 50 personnes ont pétitionné en faveur de M. Balanche et des milliers ont pétitionné en faveur de la présidente de l'université, attaquée elle-même par M. Balanche et fort peu soutenue d'ailleurs par son ministre de tutelle. Donc, de ce point de vue-là, encore une fois, je pense que des éclats comme de ce type-là sont assez inévitables, mais évidemment, il faut maintenir la liberté d'expression, et surtout quand on n'est pas en accord avec la personne qui parle. On a beaucoup parlé de l'interdiction de la conférence de Sylvia Nagasinski à Bordeaux. Il va de soi que moi, si j'avais été sur place, non seulement je me serais battu pour qu'elle ait lieu, mais je me serais battu non pas malgré nos désaccords, mais en raison même de nos désaccords. Par conséquent, la censure de M. Balanche, je la réprouve totalement.
Pierre Vermeeren.
On est au moins ce point d'accord absolu. En l'espèce, si vous voulez, c'est une interdiction de type islamiste, hein. Et ça renvoie à la régression communautaire dont on parlait tout à l'heure. L'iftar, le ftour, on dit au Maghreb, de fin de Ramadan se tenait dans l'université.
La levée du jeûne.
C'est ça. Le repas de fin de jour du jeûne de Ramadan se tenait dans l'université depuis une dizaine de jours. Je rappelle que les universités sont un lieu non confessionnel, qu'on est dans une république laïque, que ces événements ont eu lieu, bien sûr, comme tout ce qui se passe dans les universités, aux vues et aux su de tous. Et là, effectivement, un professeur peut-être a fait une remarque. La présidence a demandé à ce que ce repas soit un repas convivial. Les islamistes ont refusé.
Les islamistes, on va dire des étudiants, ça reste quand même des étudiants d'abord et avant tout.
On ne sait pas si ce sont des étudiants.
En l'occurrence, c'était des étudiants là qui ont voulu.
Non, la bande des 20 personnes masquées qui a fait intrusion dans le cours, on ne sait pas qui c'est.
Un mot de conclusion, Pierre Vermeeren. Est-ce que vous regrettez ou non que l'ouvrage ait finalement paru aux presses universitaires de France ? Il se dit que vous souhaitiez changer d'éditeur au moment où vous aviez été déprogrammé.
Oui, nous on voulait qu'il sorte. S'il sort au PUF, c'est parfait. Si les PUF avaient maintenu leur blocus, on aurait évidemment été ailleurs.
Merci à tous les deux de ce débat. Pierre Vermeeren, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb. Et Alain Policar, politiste, chercheur associé au CEVIPOF de Sciences Po. Merci à tous les deux.
Merci.